Les petits papiers. Sur Canal Sud 92.2 MHz ou canalsud.net ou sur Radio Laura, la radio libre de Zurich, 97.5 MHz ou laura.ch. Culture au pluriel, militance au pluriel, de Flore et Fatima.
Aujourd'hui, 10 ans de la mort de Rémi Fraisse, ici, sur les zones humides du TST.
Nous sommes ici, tout d'abord, bien sûr, parce que nous voulons partager avec vous, tous et toutes, ce moment à la mémoire de Rémi, bien sûr. Pour dire que nous n'oublions pas, même 10 ans après, la lutte menée ici, dont Rémi a été l'un des acteurs et la victime, est symptomatique des dérives et des impasses dans lesquelles ce système productiviste d'accaparation et de prédation a conduit notre société, particulièrement en ce qui concerne l'agriculture et la question de l'eau. 10 ans après, les mêmes tenants d'un modèle dépassé et destructeur construisent des méga-bassines protégées par des bataillons armés. Et nous sommes encore ici parce que nous nous battons pour défendre la zone humide du Testé, pour défendre ce commun vital qu'est l'eau. Cette eau qui est en même temps indispensable à la vie, qui est un milieu de vie et qui est vivante elle-même. Cette eau qui est donc si fragile et précieuse pour garantir la possibilité même de la vie. Elle est fragile et menacée essentiellement du fait des activités et des interventions humaines. Nous savons que nous vivons désormais des temps d'incertitude et de dangers multiples. Avec la crise climatique et écologique, la destruction massive de la biodiversité, ça a été dit. Nous savons que l'eau est devenue un enjeu majeur de ce siècle. Alors plus que jamais, nous devons préserver l'eau. Nous devons lutter pour la sortir du modèle marchand et financier dans lequel les néolibéraux essaient de plus en plus de l'inscrire, allant jusqu'à obtenir sa cotation en bourse dans certains pays ou États. Non, l'eau ne peut pas être une marchandise livrée sans limite aux appétits financiers et commerciaux appropriés par quelques intérêts privés. Parce que la question de son partage, de la préservation de sa qualité, de sa disponibilité pour tous et pour toutes sur tous les territoires est une question vitale pour les humains, mais aussi pour tout le vivant sur notre planète. Oui, le partage de l'eau, c'est permettre à chacun, chacune, quels que soient ses moyens et son lieu d'habitation, d'accéder à cet élément indispensable. Le partage de l'eau, c'est aussi en prendre soin des sols sur et dans lesquels elle coule. Permettre de préserver une qualité de l'eau pour tous les usages humains et pour sa restitution aux autres espèces du vivant, à la nature. Se trouver pour cela des alliés dans le vivant. Le partage de l'eau, ce n'est pas seulement celui de son usage, c'est aussi le partage de la responsabilité de sa protection et de son financement. Aujourd'hui, 85% du financement des agences de l'eau est assuré par les usagers eux-mêmes, les usagers que nous sommes. L'industrie et l'agriculture, principaux pollueurs, ne contribuent pas assez. Enfin, le partage de l'eau, c'est lutter contre l'accaparation par l'industrie de l'embouteillage, comme par quelques entrepreneurs agriculteurs de l'agriculture industrielle. Pardon. À Vittel, Volvic, Alette, comme à Sainte-Soline, et à Sivens, le sens de notre lutte est commun. Pour tout cela, la question du contrôle public et démocratique de l'eau est essentielle. Nous nous battons dans cette logique avec d'autres associations et collectifs à travers le pays, en Europe et dans le monde entier. Nous nous battons pour des régies publiques et beaucoup de villes désormais, grandes ou moins grandes, ont franchi le pas. Nous nous battons pour que la parole et la place des populations soit reconnue à la hauteur de l'enjeu essentiel pour notre siècle que représente cette question de l'eau. Il y a 10 ans déjà, Rémi était là pour les mêmes raisons.
Merci Christian.
Ok, et donc, 3 minutes, c'est parti. Alors, expliquer l'affaire du 8 décembre, c'est un peu compliqué en 3 minutes. Mais donc, en 2020, des personnes ont été arrêtées et accusées de terrorisme dans différents endroits de France. Et plusieurs ont fait de la prison avec isolement, et un a fait de la prison avec isolement, avec ces accusations de terrorisme. Et il n'y a aucun projet, seulement des soupçons et des paroles, et voilà. Et voilà, il n'y a pas de chef d'inculpation. Le seul, ce qui pourrait être reproché, c'est de vouloir s'en prendre à des institutions de l'État, type les flics. Voilà. Alors attendez, alors l'an dernier, il y a eu le procès. Voilà, ça a duré un mois à Paris et ils ont été condamnés, voilà, par la justice, qui considère que ben ils ont assez d'éléments dans leur système judiciaire antiterroriste pour faire condamner des gens avec seulement des soupçons et donc aucune action concrète de quoi que ce soit. Et bien sûr, ils sont d'ultra-gauche. Voilà. Et donc, dans les choses qui ont été notamment retenues contre eux et qui font partie de la logique de l'antiterrorisme, c'est notamment le fait qu'ils aient participé à des luttes comme celle de Sivens, comme celle du Rojava, où des gens font une révolution démocratique, ou en tout cas, ils essayent, on va dire, et que ces gens-là voilà, ont pris part à des luttes et ils sont criminalisés pour ça. Et lors du procès, il a été notamment évoqué Sivens, puisque 4 d'entre eux se sont connus ici. Et alors, en fait, il se trouve que quand on est victime de violences policières, le système judiciaire considère que potentiellement vous auriez envie de vous venger. Voilà. Et que ça, c'est suffisant pour condamner les gens. Voilà. Voilà, donc ça fait partie, en tout cas, de l'argumentaire qui a été développé pendant ce procès. Et c'est assez affligeant. Et donc, le résultat, c'est que ces personnes-là, qui sont donc des amis proches, n'ont plus le droit de communiquer entre eux aujourd'hui. Ils ont des peines de prison ferme, des peines de prison avec sursis. Ils sont inscrits donc au fichage, au FIJET, donc qui répertorie toutes les personnes condamnées pour terrorisme. Donc c'est-à-dire que un contrôle de police, ils ressortent qu'ils sont considérés comme terroristes. Voilà. Il y aura un appel au mois de novembre 2025, l'année prochaine. Donc, et ben, y a encore besoin de soutien. Ça coûte extrêmement cher ce genre de procès. Et pas que en thune d'ailleurs, hein, aussi moralement, ça abîme les amitiés, ça abîme la vie, c'est épuisant. Et donc voilà, la répression judiciaire, elle va aujourd'hui jusque là. Et ce qu'on voulait juste dire, c'est que aujourd'hui, s'impliquer dans les luttes comme celle des ZAD fait que on vit cette répression et qu'on est fiché à vie et que ça peut ressortir plus tard. Voilà. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez tous être fichés terroristes demain, ne vous inquiétez pas. Mais, enfin, si, peut-être inquiétez-vous. En tout cas, défendez nos camarades et soutenons-nous et vive la solidarité.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et solidarité. Solidarité.
Donc, un autre non passe à rail contre cette autoroute ferroviaire qui est la LGV Toulouse-Bordeaux. Vous connaissez la 69, la LGV Toulouse-Bordeaux, c'est exactement la même chose, une autoroute ferroviaire qui va détruire 5000, qui détruirait, si on laisse faire, 5000 hectares de terres agricoles, des forêts sur des étendues extraordinaires avec des hêtraies multimillénaires, des rivières, des zones humides. L'Aquitaine, c'est le pays de l'eau. C'est donc un désastre absolu. C'est un des plus grands chantiers en France pour les décennies qui viennent, avec peut-être le Lyon-Turin et le canal Nord-Seine-Europe. C'est un chantier gigantesque pour vous dire. Ils réfléchissaient il y a quelques années à faire venir de la terre depuis la Chine en cargo pour arriver à faire en fait les remblais de la LGV. La LGV, c'est aussi de l'énergie électrique en très grande quantité, parce qu'un train à 350 km/h, c'est énormément de vitesse. C'est la centrale de Golfech qui vient de se porter. C'est la centrale de Golfech qui vient de se porter candidate pour accueillir 2 réacteurs nucléaires supplémentaires. C'est tout ça la LGV, donc du coup une mobilisation très importante. On a eu l'événement freinage d'urgence il y a 15 jours avec plus de 1500 personnes. Un hélicoptère qui a volé la nuit de 3h38 à 4h22 en faisant sonner des sirènes pendant 3 quarts d'heure gratuitement juste pour rendre les gens fous et folles. Donc du coup juste pour en fait créer de l'oppression, créer ce sentiment-là, ça rejoint ce qu'on vit ici. Du coup... cette mobilisation ne fait que commencer. Il y a un rassemblement qui est prévu dans le sud Gironde le 22 mars, week-end du printemps, où vous êtes toutes et tous invités à venir, sachant qu'on se bat contre les mensonges aussi de Madame Carole Delga et de Monsieur Rousset, les amis notamment de Monsieur Cazeneuve, parce que Bernard Cazeneuve, moi je me souviens l'avoir entendu ici le dimanche matin dire qu'il avait suivi personnellement les opérations de police pendant toute la nuit. Ce monsieur-là est un ami de Madame Delga qui nous ment sur le train. Qui ment aussi sur le train, parce que sur l'A69, il y a une alternative ferroviaire qui coûterait 40 millions d'euros pour ajouter une gare, de la signalisation et doubler le cadencement et transporter toutes les personnes qui le veulent. Et Karen Herodi, Anne Stenbach, Christina Rigui ont fait ressortir ça très clairement de la commission d'enquête parlementaire. Ils n'ont pas présenté d'études alternatives, donc l'autorisation environnementale devrait être jugée nulle. Au passage, ils veulent mettre une gare à Balma pour les trains du Tarn et vous faire vous arrêter à Balma et prendre le métro. Et au passage, ils sont en train de détruire aussi le bord du canal latéral au nord de Toulouse pour ajouter une troisième et quatrième voie alors qu'il y a déjà des voies de fret qui ne sont pas utilisées. Et je laisse la parole du coup à Vague rapidement, puisqu'il y a une lutte en cours à quelques kilomètres d'ici au nord de Toulouse.
Merci. Alors, on devait parler pour le site d'occupation qui a Saint-Glory. Donc, depuis le 30 août, une occupation s'est lancée pour lutter contre la LGV Bordeaux-Toulouse-Bordeaux-Dax, au niveau de l'écluse des Trois Ponts à Saint-Glory. Pourquoi ce site en particulier? Parce qu'il correspond précisément au point de départ de la LGV depuis Toulouse. Sur cette zone, plusieurs hectares de forêt sont menacés d'être rasés. Plusieurs espèces animales pourtant protégées sont également menacées. Parmi eux, la loutre d'Europe, les chauves-souris ou le rossignol des marais. Pour lui, c'est l'entièreté de son habitat naturel qui va être rasé, provoquant sa disparition pure et simple dans cette zone sans la moindre mesure compensatoire. Alors, on occupe les sols, on occupe les arbres, comme on l'a déjà fait avant sur la lutte contre la 69. Depuis peu, les camarades ont mis en place la guinguette vaillante, un lieu convivial, festif et inclusif pour vous accueillir au mieux sur cette nouvelle zone en lutte. Le 29 de ce mois aura lieu sur le tracé de la 69 une veillée au flambeau pour commémorer nos arbres tombés. Apprenons de nos erreurs et n'attendons pas pour nous mobiliser en nombre pour tenir ce site emblématique. Pas un arbre de plus ne doit tomber. Rejoignez-nous à l'écluse des Trois Ponts, à Saint-Glory, et ensemble empêcherons NGE de commettre ces actes mortifères. Parce qu'ils peuvent, avec leur force de l'ordre, nous mutiler, nous tuer. Ils peuvent, avec leur justice, nous enfermer, mais jamais ils ne nous feront abandonner.
Il y a aussi une cagnotte pour les écureuils de l'écluse à Saint-Jory. Et passez les voir sur site pour les soutenir, amener du chocolat et juste un peu de réconfort. Et ils occupent déjà depuis fin août.
Merci.
On les appelle les gens spéciaux. Les Kaira, les marginaux, les désobéissants, on a le sang chaud. Les zadistes, pacifistes. Les nomades utopistes, les rastas, les sauvages, les indignés, les insurgés. On a la rage et pas de haine. On prône la solidarité, le partage, la liberté. Très créatif, on déborde d'imagination, c'est bien plus que des visions. On pense toujours très loin et très vite. T'as compris? On est du genre avant-gardiste. La plupart sont pas partis, nous on y est déjà et on construit la vie. Si un jour te vient l'idée un peu folle de t'échapper, ou si un soir tu veux tenter peut-être de changer ton histoire, passe nous voir. On n'est pas loin des potagers sur les aides, dans les squats et tous les lieux autogérés. Poètes, musiciens, artisans, paysans, hypersensibles, écorchés, rêveurs ou voyageurs. Humanistes, altermondialistes, activistes, nous sommes les anarchistes.
Sachez que la résistance se fait avec les anges. On est quoi qu'il en coûte en barricade.
Stop Rire RD 84, Rire Réseau Routier Interrégional. C'est le grand contournement qui a été évoqué tout à l'heure par l'usine de Montant. C'est le grand contournement de Toulouse que veut Carole Delga et que veulent les élus. Il se saucissonne en petits tronçons. Vous avez eu déjà des tracés qui commencent à être aménagés entre Montauban, Gaillac, etc. C'est Montauban, Gaillac, Groyer, Saint-Paul-Cap-de-Joux, puis Laurent, Revel, Castelnaudary. Donc voilà, ça c'est ce qui se prépare. On s'en est aperçu un peu par hasard. C'est un projet qui a été, quand on le retrouve en arrière, on arrive à retrouver des documents qui l'évoquent depuis très longtemps. Mais c'est parce qu'une des propriétaires à Puylaurent, au prolongement du barreau des poids lourds qui vont sortir de faire le trajet Revel Saint-Paul-Cap-de-Joux, s'est vu arriver trois personnes en disant venez signer là, on a besoin de faire des relevés topographiques sur votre terrain. Elle connaissait la voie est libre, elle nous a contactés. Et de là est né tout de suite un collectif très rapidement parce qu'on a vu qu'il y avait quelque chose qui se cachait en guise sous roche de ce grand contournement. Donc ce collectif existe depuis 5 ou 6 mois simplement. On a quand même déjà commencé à constituer des réunions publiques, à contacter des avocats, à demander des documents au niveau des autorités. Personne n'est au courant de rien. Il y a des maires qui ne savent même pas, le maire Saint-Paul-Cap-de-Joux, il n'a jamais entendu parler de ça alors que ça doit passer chez lui. Donc voilà, on est en train de lever un lièvre énorme. Je ferai le rapprochement avec la centrale d'Enrobé de Puylaurent. C'est pas par hasard qu'il y a une si grosse centrale à Puylaurent qui est soi-disant temporaire. Elle ne le sera certainement pas parce que Puylaurent va devenir le carrefour nord-sud, est-ouest du département du Tarn.
Et tout autour de ça, il va y avoir des zones d'activité, des zones commerciales, des zones résidentielles. Donc c'est un projet qui commence effectivement à se lever. On a également, comme tout le monde, besoin d'argent pour... voilà, on a 400 euros pour l'instant. On a payé la première intervention d'avocate. Mais voilà, c'est un peu comme les sans bitume, c'est quelque chose. On va essayer de mobiliser les populations locales parce que ça va passer chez elles, ça va concerner beaucoup de gens. Donc c'est le travail sur le terrain qu'on est surtout en train d'essayer de faire, des réunions publiques. Ça démarre bien et donc on espère qu'on va mobiliser les gens parce qu'on sait avec La Voix est libre que c'est très très difficile de faire que les gens s'expriment sur leur opposition. Je suis pas pour, mais ils osent pas dire je suis contre. Donc il faut qu'on arrive à mobiliser les gens et faites savoir cette parole autour de vous. Merci à vous.
Il y a un petit atelier chant éphémère ce matin. On a appris le chant Aïe Mama. C'est un chant du groupe Way, groupe occitan, qu'il a écrit en 2018 après la mort de Rémi. Et c'est un chant qui a été traduit en occitan albigeois. J'ai quelques paroles. S'il y en a qui le connaissent ou qui veulent l'entonner, j'ai des textes pour le prendre.
Maintenant, si ça vous va à tous et à toutes, on va enchaîner avec d'abord des témoignages et des lectures. Et on trouve ça super important de donner la parole d'abord à Franck Michalon.
Voilà. Excusez-moi, c'est une grosse émotion pour moi. Ici tellement la situation et le lieu est similaire à ce qui a été vécu il y a 47 ans. C'est pareil, même terrain de lutte, même météo, Ce matin, j'entendais dire, oui, en 10 ans, rien n'a changé. Mais nous, il y a 37 ans, on s'est dit, mais en 37 ans, rien n'a changé. Bon, mon témoignage va paraître un peu naïf à beaucoup de gens ici. Mais tant pis, je vais quand même le donner. Donc, mon frère Vital a été assassiné à Malville. Vital, Malville. Le 31 juillet 1977. Alors, 1977, c'est l'année de mes 20 ans. 20 ans, c'est l'âge où on doit s'intégrer dans une société en bon adulte. Et j'ai compris tard qu'en fait, les piliers sur lesquels je dois m'intégrer, m'appuyer pour m'intégrer dans une société d'adultes, eh bien, ces piliers avaient volé en éclats avec l'explosion de la grenade qui a tué mon frère. Oui, ça fait exploser mes piliers, c'est-à-dire c'était qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui, que les gendarmes sont mes amis et tous les juges très gentils. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Et comment se construire sur ces décombres? Et en disant ça, je pense à beaucoup de monde. Je pense bien sûr à la sœur de Rémi, mais je pense aussi à tous ces jeunes que j'ai entendus tout à l'heure et qui m'ont provoqué beaucoup, beaucoup d'émotions. Oui, comment se construire? Comment devons-nous nous construire sur ces décombres? Eh bien, en fait, c'est un peu comme la révélation que le Père Noël n'existe pas. Oui, la violence peut relever d'une politique gouvernementale. La violence et l'injustice peuvent relever d'une politique gouvernementale choisie, assumée. D'ailleurs, on ne parle plus de gardiens de la paix, mais on parle des forces de l'ordre. Une époque, on parlait des gardiens de la paix. Les violences policières sont les violences de l'État et n'oublions surtout pas les paroles de Michel Alliot-Marie en 2011 qui proposait au président de Tunisie qui luttait contre ce printemps arabe, qui lui proposait le savoir-faire français en matière de maintien de l'ordre, savoir-faire reconnu dans le monde entier. Reconnu dans le monde entier, oui, mais maintenant dénoncé par l'ONU, dont les experts invitent, et je cite ces experts, la France à repenser ses politiques en matière de maintien de l'ordre. Tiens donc. Mais pour construire une société apaisée, nous savons que nous ne pouvons pas compter sur notre tout nouveau gouvernement. Toujours les mêmes, éternellement. Qu'ils soient de droite, qu'ils se disent socialistes, c'est toujours pareil. Tous incapables et incapables de voir qu'ils nous conduisent vers l'abîme. Donc ce nouveau gouvernement, qui n'a pas traîné pour annoncer qu'il voulait supprimer des postes d'enseignants pour créer des postes dans la police et la gendarmerie. Toujours le savoir-faire. Pendant combien de temps encore allons-nous célébrer notre fête nationale en faisant défiler des canons? Combien de temps encore pour que notre hymne national ne soit plus un appel au meurtre, mais un chant de paix? Il faut l'enseigner à l'école, cet hymne national? Ok, d'accord. Mais alors prenons des paroles de paix, comme celles proposées par exemple par Raymond Loret aussi. Moi j'ai envie de vous les chanter, si j'y arrive. Pour tous les enfants de la terre, chantons amour et liberté, contre toutes les haines et les guerres, l'étendard d'espoir élevé, l'étendard de justice et de paix. Rassemblons nos forces, notre courage, pour vaincre la misère et la peur que règne